auteur de la recréation du passé, enjeux identitaires et mémoriels, approche socio-anthropologique de l'histoire vivante médiévale, donc aux Presses Universités de Franche-Comté en 2013. Donc un profil, Audrey, un petit peu atypique, mais qui va tout à fait nous intéresser.
Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi aux organisateurs et pour l'ouverture pluridisciplinaire. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc je vais vous parler des recréations du passé et plus spécifiquement des reconstitutions historiques. Et donc ce loisir qui est pensé comme la mise en vie d'un temps révolu apparaît comme fortement attaché aux sources historiques et l'imaginaire semble ainsi mis de côté puisque l'objectif revendiqué est la reproduction fidèle de l'histoire. Donc pour ce faire, de nombreux artisanats sont reconstitués, le but étant d'exposer des fragments du passé et les pratiquants d'histoire vivante insistent sur la nécessité de se conformer à ce qu'on sait des traces historiques ou archéologiques sans extrapolation ni place pour l'imagination. Pourtant, cette recherche d'historicité, donc dans les savoir-faire, se modifie dans le cas des recréations d'affrontements armés. Autrement dit, quand on voit apparaître des combats, on entre plutôt dans un cadre ludique qui va renouer avec la fantaisie et s'éloigner davantage de l'histoire. Donc ces combats ont un statut à part en reconstitution et ils oscillent entre représentation fictionnelle de la guerre et faits historiques. Donc les batailles forment des temps spécifiques en histoire vivante et on a ainsi une frontière entre données historiques et ancrage fictionnel qui devient poreuse. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, ça repose sur un travail de terrain ethnographique, donc avec une trentaine d'observations participantes, une cinquantaine d'entretiens semi-directifs et une centaine de questionnaires ethnographiques recueillis. Et pour le thème plus spécifique des combats, j'avais complété cette approche avec des entretiens de groupe réalisés avec des femmes reconstitutrices, qu'elles soient combattantes ou non. Donc, dans un premier temps, l'idée c'est de présenter rapidement la reconstitution dans ce qu'elle a d'historique et les différentes modalités d'immersion dans le passé. Ensuite, de s'attacher plus spécifiquement au combat, donc de montrer que ce sont des temps à part, des temps ludiques, et de terminer avec une dernière partie sur les affrontements armés comme des moments rituels principalement destinés aux hommes. Alors, un contexte historique, donc la reconstitution historique fait partie de l'histoire vivante. Cette histoire vivante est une démarche qui vise à recréer des artefacts et à mettre en vie des manières de faire de temps révolus, de l'étude des traces laissées par l'histoire ou l'archéologie à la réalisation contemporaine d'outils ou d'objets. Donc les pratiquants insistent largement sur la nécessité d'expérimenter pour vivre l'histoire, je cite. Donc cette histoire vivante, elle englobe à la fois la reconstitution historique, qui est l'approche la plus visible, et d'autre part, les arts martiaux historiques européens. Alors si la reconstitution historique vise à reproduire, à représenter une personne conforme à une période historique particulière, les arts martiaux historiques européens, qu'on appelle AMHE, sont une activité physique et culturelle qui vise à retranscrire des techniques historiques issues de traités pour mettre en vie un geste martial. Donc on a différentes manières d'exposer le rapport au passé et dans tous les cas, l'objectif, alors les pratiquants, je passe assez rapidement là-dessus, mais les pratiquants d'AMHE comme les reconstituteurs sont souvent les mêmes. Donc pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce hein, qui constituent l'histoire vivante. Et leur objectif, quelle que soit la pratique, ça va être de présenter l'histoire avec un grand H dans sa matérialité, mais aussi dans sa corporéité. Donc ici, je voudrais m'intéresser plus spécifiquement à l'histoire vivante médiévale, parce que c'est mon terrain de recherche et que je ne veux pas présenter sur des périodes que je ne connais pas premièrement, mais aussi parce que c'est la période la plus visible du point de vue du grand public, notamment parce qu'on en voit beaucoup sur les fêtes médiévales, même si ce n'est pas forcément le lieu de la reconstitution historique. Alors, les événements de reconstitution, à l'inverse justement des fêtes médiévales, visent à représenter une réalité historique reconstituée et cherchent à s'opposer à ce qu'on appelle dans le milieu l'évocation, avec comme marqueur la justesse historique. Donc, plus on est proche des traces laissées par l'histoire, des sources, plus on fait de la reconstitution, plus on s'éloigne de ces sources, plus on va tendre vers l'évocation avec un ancrage fortement imaginaire. Alors, les portraits de reconstituteurs, c'est le côté sociologue qui parle, je vais passer rapidement. On est sur une population, donc mon terrain, c'est la France, Suisse, Belgique. Donc, c'est cette communauté formée par ces reconstituteurs francophones. Donc, ils sont majoritairement âgés d'une trentaine d'années. 70% d'entre eux sont des hommes, donc on est sur un loisir qui est quand même très genré. Quand il y a des femmes, elles viennent souvent avec leur compagnon, leur mari, ou avec, dans un cadre associatif, elles viennent très rarement seules sur des manifestations. Ce sont des gens qui sont globalement diplômés du supérieur, beaucoup sont licenciés ou ont un master. Et les motivations sont la recherche d'une convivialité et le désir de transmettre l'histoire autrement. Alors, l'histoire vivante fonctionne sur le principe d'une communauté, donc c'est un groupe restreint qui produit un sentiment d'appartenance, qui partage des normes et des valeurs communes. Je passe rapidement, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller transmettre une autre vision du Moyen-Âge. Et ça, c'est assez important parce qu'on va voir que justement, dans les combats, ben, c'est pas forcément ce qu'on retrouve. Donc, s'opposer à ce qu'on voit du Moyen-Âge dans les films, dans les séries, voilà, dans tout ce qui est véhiculé par le médiévalisme aujourd'hui. Donc les reconstituteurs cherchent à s'y opposer. Alors, justement, pour le lien avec la fantaisie, j'avais 46% des enquêtés qui déclaraient pratiquer ou avoir pratiqué le jeu de rôle ou grandeur nature. Donc on voit qu'on a un lien très fort avec la culture fantaisie. Et le passage, souvent, ça se traduisait sous forme de passage, des gens qui avaient fait beaucoup de grandeur nature ou de JDR et qui en venaient à la reconstitution parce qu'ils avaient envie d'avoir plus d'historicité et de s'immerger dans un loisir plus historique que le jeu de rôle. Alors ça répond un peu, enfin, ça fait écho à ce que tu disais, Laurent, tout à l'heure. Pour autant, il n'y a pas un rejet, hein. Les reconstituteurs ne rejettent pas du tout les rôlistes, etc. Pour eux, c'est juste une différence de nature entre les deux loisirs. Ce n'est pas la même chose, donc on ne peut pas les comparer. Alors, on a deux grandes modalités d'immersion dans le passé. Donc, c'est ce que vont rechercher les pratiquants d'histoire vivante, c'est s'immerger dans le passé. Donc, l'immersion, elle est caractérisée par la volonté de laisser en dehors de la manifestation tout ce qui va être lié au quotidien, que ce soit les objets, alors les voitures, les téléphones qu'on ne doit plus voir, ou un mode de vie, alors il n'y a plus de salle de bain, etc. L'idée, c'est de produire une rupture avec la modernité. Alors, ce n'est pas du tout une nostalgie, c'est plutôt vécu comme un dépaysement. Les reconstituteurs, en gros, partent au Moyen-Âge comme vous partez en vacances. Hein. On n'est pas sur quelque chose de... C'était mieux avant, hein. C'est pas du tout l'idée. Donc la première manière d'entrer dans le passé, ça va être de reproduire des savoir-faire historiques. Donc il y a un lien très fort avec l'artisanat, la vie quotidienne, ça va être de fabriquer des costumes, d'apprendre un artisanat qui a disparu ou qu'on connaît moins, la forge, la poterie, etc. Donc tout un temps d'activité qui est caractérisé d'activité civile, entre guillemets, c'est le terme qui est employé, parce que ce sont des activités qui renvoient au quotidien de l'époque, à ce qui permettait en fait de vivre à l'époque. Dans cette quotidienneté, on met aussi tout ce qui est reconstruction de bâtiments, notamment les fermes vikings, mérovingiennes, etc., qu'on va voir sur les parcs archéologiques beaucoup. Et l'idée, là, c'est d'avoir encore une immersion plus forte, puisqu'on remplace les tentes par des constructions bâties. La seconde façon d'expérimenter le passé, ça va être le combat. Et devenus des symboles du Moyen-Âge, hein, les affrontements de combattants armés sont systématiquement mis en scène, alors sous forme de joutes à pied, à cheval, ou de combats opposant deux armées. Donc c'est un temps à part en reconstitution, parce qu'il est délimité par des horaires, des manières de se vêtir, des manières de se montrer, et on va être davantage détaché des sources archéologiques. Donc tout se passe comme si l'expérience de la mise en vie d'affrontements armés se calquait sur le modèle des JDR fantasy. On retrouve ce lien fort, hein, qu'on a entre la culture fantasy et les pratiquants de reconstitution. Alors, donc les combats plus spécifiquement, donc cela correspond à une mise en scène particulière. Alors c'est un temps incontournable dans les événements de reconstitution. Il y a très peu d'événements où on ne voit pas de combat. Il y en a eu quelques-uns qu'on appelle off, qui sont fermés au public. C'est pour les reconstituteurs entre eux pour échanger autour de savoir-faire, ils ne durent pas très longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à disparaître. On voit que le combat est quand même une motivation importante pour les reconstituteurs. Alors, on a différents types de combats. Donc, c'est une catégorisation, hein, qui peut être discutée, mais globalement, ça donne les grandes tendances. Donc, ce qu'on appelle les meules, ce sont des affrontements de deux groupes, l'un contre l'autre, sans que l'issue du combat ne soit forcément connue à l'avance. À côté de ça, on a des affrontements scénarisés. Donc là, on est plus sur une mise en scène, notamment à destination d'un public. Le but, c'est de se faire rencontrer deux armées. Mais on sait quelle armée va gagner à l'avance. Et souvent, quand c'est sur un week-end, ils intervertissent pour qu'il y ait quand même un camp, enfin, qu'il n'y ait pas de vrai conflit entre les deux camps. Et enfin, on a donc des reconstitutions de bataille, où là, l'enjeu, ça va vraiment être de mettre en place, de reproduire des stratégies militaires connues. Donc là, c'est l'exemple de Bouvines, il y a l'exemple d'Azincourt, il y a évidemment Hastings, etc. Alors, le terme général qui est employé pour ces combats, c'est celui de mêlée. Et les costumes dans ces mêlées vont jouer un rôle assez important, puisqu'ils viennent garantir la conformité à l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, le lien à l'histoire, il n'est pas fait par le geste comme pour les arts martiaux historiques européens, il est traduit dans le costume. C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir un costume militaire qui soit proche de l'histoire, parce que justement, cette histoire ne se retrouve pas dans les gestes. Donc on a des affrontements qui sont surreprésentés par rapport aux faits historiques, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on a pu trouver à l'époque, et ils sont aussi surreprésentés dans la pratique de loisir, puisque évidemment ça forme un élément central, c'est autour de l'affrontement que va s'organiser l'ensemble du week-end, et puis les artisanats, on les met pour combler autour, hein. Je schématise un petit peu, mais c'est un peu ça. On sait aussi par exemple que les épées sont les armes les plus employées en reconstitution, alors qu'évidemment au Moyen-Âge, hein, l'arme la plus utilisée c'était le bâton, puisqu'on avait des piétons légers et des chevaliers, d'ailleurs sans chevaux en général, ça pose quand même un vrai souci en termes d'historicité. Donc on a aussi c'est souvent des catégories sociales plutôt élevées qui sont reconstituées forcément, hein, et ça c'est pareil, c'est très peu plausible d'un point de vue historique. Donc ça, ils le savent très bien, hein, ils en sont assez bien conscients, et je vous ai mis donc quelques citations d'entretien. Une organisatrice qui explique que bah oui, de toute façon, ça a lien à l'histoire que quand on a par exemple en place des stratégies militaires, mais que sinon globalement c'est juste pour s'amuser. Donc on est bien là sur une mise en spectacle, et l'idée c'est de montrer quelque chose à un public, de montrer le côté militaire à un public, et donc de mettre en place des tableaux guerriers. Et donc une véritable mise en scène esthétique de l'histoire. Donc on est l'objectif, hein, c'est de produire une performance visuelle qui va mettre en exergue un imaginaire guerrier. C'est-à-dire que le guerrier, c'est un homme, il est armé, il est protégé par une armure. S'il a un cheval, c'est encore mieux, mais là, c'est d'autres problématiques, notamment économiques et techniques. Et donc ce qui est mis en avant, c'est vraiment l'esthétique davantage que la véracité historique. C'est les représentations qu'on se fait du Moyen-Âge. Donc là, on est vraiment dans cette idée que la matérialité de l'histoire, elle se situe du côté des recréations, donc d'artefacts ou de costumes, et pas du tout dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans le lien avec le geste. Alors, vous voyez qu'on travaille beaucoup avec Laurent, on emploie les mêmes auteurs et les mêmes approches. Les combats, finalement, c'est une sorte de rencontre focalisée, hein, donc pour emprunter à Goffman cette idée-là, c'est une bulle temporelle dans laquelle de nouvelles règles s'appliquent, et donc c'est un temps ludique, une construction d'un monde, finalement, qui va ordonner des règles de pertinence, donc j'en viens pas puisque Laurent l'a très bien fait tout à l'heure, qui va aussi apporter pour les combats des manières de faire dans un espace-temps particulier. Donc il y a notamment l'accent qui est mis sur le fun de l'activité, et ça c'est très fort, hein, Goffman parle d'euphorie, mais il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que le combat, ça doit être fun, et ça doit mettre en place, enfin, faire ressentir des émotions, c'est-à-dire que le combat, c'est l'adrénaline. Et il y a une autre citation que je vous donne, donc c'est une sensation qu'on n'a pas tous les jours, c'est vraiment quelque chose de très fort, et le but, c'est d'expérimenter l'histoire par la création d'émotions. Alors, au-delà de ce temps ludique, ce sont aussi des combats figurés, puisqu'évidemment, ils ne se tapent pas vraiment dessus. Enfin, si, justement, ils se tapent vraiment dessus, mais ils ne se blessent pas. L'idée, c'est quand même de garantir la sécurité d'autrui, de provoquer des émotions fortes, mais l'objectif, ce n'est pas de blesser son adversaire. Alors ça, c'est pareil, c'est un vrai problème par rapport à l'histoire, puisque, historiquement parlant, il fallait tuer son adversaire, et ça ne durait pas 10 minutes, c'était 30 secondes. Et voilà. Donc là, il y a aussi... l'enjeu, c'est de faire semblant... de porter des coups, donc c'est ce que les pratiquants vont dire, hein. C'est sympa, on sait qu'on ne peut pas mourir, donc c'est un petit peu contradictoire, parce que d'un côté on expérimente l'histoire par les émotions, mais en même temps on sait très bien que c'est pas vrai et qu'on risque rien, donc là il y a vraiment un faire semblant de jouer à la guerre qui met moins l'accent donc sur les gestes que sur l'impression visuelle et sur les émotions. Alors, ils sont conscients, hein, les reconstituteurs, que ces activités de combat, elles dérogent aux règles de l'historicité. Mais finalement, comme on est dans un cadre ludique, ça pose moins de problèmes parce que c'est une bulle temporelle dans la reconstitution et donc on se permet davantage de choses. Donc on est bien sur un faire semblant de jouer à la guerre, donc avec simulation de mort à la fin des combats, etc. Et c'est vraiment s'immerger donc, par l'imaginaire, parce qu'on s'imagine hein, du combat médiéval. Je voulais faire un petit aparté parce que je trouvais que c'était assez important. Il y a un autre type de combat qu'on a vu apparaître il y a quelques années, qui est le béhour. Donc le béhour, c'est un sport qui emprunte des éléments visuels au Moyen-Âge. Voilà ce que ça peut donner. Donc ça n'a absolument rien d'historique. Les reconstituteurs ont tendance à rejeter cette pratique parce qu'ils la jugent trop violente, trop brutale. Et ce que je me demandais finalement, c'est est-ce qu'on n'a pas un lien entre violence et proximité à l'histoire? Autrement dit, plus la pratique de combat va être violente et brutale, donc fortement calquée sur les représentations qu'on a dans la culture populaire du Moyen-Âge, plus on s'éloigne de l'histoire. À l'inverse, les arts martiaux historiques européens vont mettre l'accent sur le geste et on a beaucoup moins de violence dans la pratique, une violence physique brutale. Donc ça, c'était un petit aparté sur les différents types de combats qu'on peut trouver ici. Et donc ma dernière partie sur cette idée que comme on est sur des espaces-temps ludiques, on est aussi, il me semble, sur des espaces-temps rituels, et donc les combats peuvent aussi être appréhendés comme des espaces interstitiels. Donc ça, j'emprunte cette notion à Piette à la suite d'Albert Piette à la suite de Grégory Bateson. Le jeu est constitué de zones de limbe. On sait que le temps du combat en reconstitution n'est pas un combat réel, mais on sait aussi qu'il n'est pas non plus un non-combat. Puisque les affrontements entre participants sont organisés, réglés, ils peuvent parfois donner lieu à des blessures, ça arrive. Donc on est dans des espaces un petit peu interstitiels, sur des interactions sociales qui vont se situer entre deux catégories de comportements, ici entre l'histoire et le jeu, entre la reconstitution et la figuration, donc sur un espace-temps particulier organisé avec ses propres règles de conduite. Et donc ce cadre interstitiel, c'est aussi, ça peut aussi être appréhendé comme un temps rituel, puisque le rituel va aller organiser les interactions. Donc ça va être on va avoir retrouvé un ensemble de rites qui vont produire une situation sociale particulière. Par exemple, on va avoir des objets particuliers, donc tel type d'épée, quelle épée je prends, quel bouclier je prends, quel code de maille je mets, comment le combattant s'habille avant d'aller dans une mêlée. Donc souvent, il est aidé par des femmes qui vont lasser le gorbison, l'aider à enfiler sa queue de maille, etc. Donc on a tout un ensemble de rituels, de rites comme ça qui ont une forte charge symbolique et qui préparent en fait le jeu du combat. Donc ils produisent donc ces rites de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de s'habiller. Ils sont souvent destinés au public, hein. C'est l'habillement du combattant, etc. Et donc on a une dimension symbolique qui est très forte, hein, et qui passe autant par le visuel que par les sons, puisque les combattants vont souvent crier quand il y a deux armées entre guillemets qui se rencontrent, le bruit des épées, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort aussi au niveau des sens. On sait que le cadre rituel, c'est aussi un moyen de proposer un autre temps. Et souvent, ce qu'on va retrouver chez les combattants, c'est cette idée de on veut retrouver un temps de l'enfance. C'est comme quand on jouait petit avec un bâton. C'est comme quand on jouait, quand on faisait du GN, mais maintenant, c'est pour de vrai, je cite. Il y a vraiment cette idée d'aller retrouver un temps de l'enfance. On est des grands enfants, on aime bien jouer, même à 44 ans, par exemple. Donc on est sur un déchaînement d'émotions, ça je vous l'ai dit, c'est un temps cathartique, c'est-à-dire que c'est aussi, les mêlées, elles permettent finalement d'exprimer une violence qui ne peut pas être exprimée ailleurs en reconstitution, hein, puisque l'artisanat, c'est plutôt quelque chose de minutieux, donc on ne va pas avoir un déchaînement d'adrénaline à ce moment-là, etc. Donc on sait par ailleurs qu'on a différents degrés de violence, en fonction des pays, notamment par exemple... les combats de reconstitution en Russie sont beaucoup plus violents et souvent les Français sont interdits d'y participer parce qu'on leur dit « non, mais t'as pas de niveau, toi ». Donc voilà, donc on a des degrés de violence, même si cette violence est théâtralisée, il y a des blessures, ça arrive, mais globalement, c'est souvent associé à de la malchance. Donc ça, ce sont les discours qui sont tenus. Et alors, mon dernier point, c'est de montrer que ces combats rituels sont largement ancrés dans des espaces masculins. Les femmes prennent finalement guère part aux activités martiales en reconstitution. Alors moi, je me suis posé la question, comment ça se fait? Pourquoi elle n'utilise pas cet espace interstitiel pour s'immerger dans le passé? Et globalement, ça a été difficile d'un point de vue méthodo, par exemple, de recueillir des témoignages d'hommes sur cette question spécifique. Les hommes ne veulent pas en parler, et les femmes, quand elles en parlent, c'est souvent pour mettre l'accent sur les problèmes rencontrés, sur ce qu'elles ressentent quand elles font du combat. Alors, quand elles font du combat, les femmes, elles sont accueillies très très souvent quand elles sont costumées en hommes. Donc à partir du moment où on ne peut pas, enfin où le public ne peut pas se rendre compte qu'il s'agit de femmes. Et donc tout se passe comme si finalement elles devaient trouver leur place dans cette activité, mais en étant des hommes. Et on voit une polarisation assez forte entre le combat comme activité masculine et l'artisanat davantage, pas uniquement évidemment, mais davantage comme une activité féminine. À ce propos, donc une combattante qui témoigne, elle parle de son compagnon et elle dit « Al veut se prouver des choses en faisant du combat, il veut se prouver qu'il est aussi fort que les autres. Je n'aime pas quand il fait du combat parce que ça ne lui ressemble pas. » Et par ailleurs, cette personne-là, en l'occurrence, est un très bon artisan et il n'aurait pas besoin, entre guillemets, dans la communauté pour se faire reconnaître, parce qu'il y a ces logiques-là derrière aussi, de faire du combat, mais il se sent obligé. Et comme par un effet de miroir, une femme qui combat se doit tenir ce rôle jusqu'au bout. Et une combattante me raconte, un jour, un homme de ma troupe m'a dit « Ah tiens, tu t'es mise au galon, tu es devenue PD ». Donc on a vraiment cette idée qu'on tient des rôles et on doit les tenir jusqu'au bout. Et une femme peut combattre, mais elle doit combattre comme un homme. Alors, et inversement, les hommes qui ne combattent pas, il y en a finalement assez peu. Mais on va leur demander, mais pourquoi tu combats pas? C'est-à-dire que c'est pas normal, un homme en bonne santé, voilà, qui ne combat pas, c'est pas normal. Et on se rend compte finalement que l'effet de l'âge, donc quand les hommes vieillissent, ils combattent moins ou plus, et c'est un prétexte, un très bon prétexte, non mais c'est plus de mon âge, ou j'ai plus l'âge de faire ça, etc. Donc on est sur des combats qui sont des lieux de socialisation masculine. Les hommes cherchent à se retrouver entre eux le temps de l'activité, donc je cite des enquêtés. Et alors c'est pas énoncé comme ça par les hommes, ça c'est les femmes vraiment qui le présentent comme ça. Et selon certaines d'entre elles, la part de secret, c'est ce que je vous ai mis là, c'est un temps de secret qui va créer la cohésion du groupe des hommes. C'est-à-dire que les hommes se retrouvent entre eux, ce temps est fermé aux femmes, alors effectivement pas dans les discours, on dira presque jamais à une femme tu peux pas être là, mais on va lui faire comprendre. Et c'est aussi un monde masculin qui est soumis à comparaison et à compétition. Et par exemple, une combattante me dit « Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité. Un mec qui se voit défaire par une femme, ça peut être très dur à supporter. » Parce qu'il y a cette logique-là aussi que si les femmes sont bonnes en combat, ça met un coup à l'ego masculin. Et donc c'est aussi une des raisons qui explique qu'on n'a pas de femmes, peu de femmes en combat. Donc on a une reconstitution qui va osciller aussi entre deux représentations qui expliquent cette polarité entre combat féminin et combat masculin, les guerriers et les princesses. Et ça c'est très, enfin, c'est très lié à l'imaginaire du Moyen-Âge. D'un côté on a les guerriers et de l'autre les princesses. Alors les princesses, les femmes me disent de toute façon en reconstitution ce que les filles elles veulent c'est se montrer, c'est porter des bijoux, c'est impressionner, voilà, donc ce côté un petit peu princesse. À l'inverse, les hommes qui vont rechercher le côté plutôt militaire. Donc un enquêté me dit au départ, donc, dans ses motivations, c'était dans le top 3 des activités, manger, dormir dans de belles maisons et être chevalier. Maintenant, j'ai un peu plus de recul. Et il a quasiment arrêté le combat. Alors que donc, la pratique de reconstitution se veut détacher de la fantaisie et de l'imaginaire, on se rend bien compte que voilà, dans le combat, on a des manifestations qui rappellent des places à prendre en fonction de son genre. Et l'artisanat est devenu aussi pour les femmes un moyen de trouver une place en reconstitution, autre que celle de princesse ou de combattante, où c'est aussi compliqué pour elle. Pour conclure, alors que la reconstitution en tant que loisir historique vise à recréer le plus fidèlement possible des traces laissées par l'histoire, les affrontements armés, donc les mêlées, vont susciter l'apparition de l'imaginaire dans cette pratique. Donc on a un malaise qui transparaît dans les discours lorsque les combats sont évoqués, entre ancrage dans la fantaisie, qui vient rappeler une certaine pratique du jeu de rôle, du GN, qui est un fief de la masculinité, et des affrontements qui vont cristalliser une activité qui s'éloigne de la reconstitution. Donc on est dans un cadre ludique, sur une situation sociale focalisée, sur un temps rituel, et le combat donc met l'accent sur la création d'émotions qui permet de ressentir de l'adrénaline et de s'immerger dans le passé. Donc si l'histoire vivante finalement vise à recréer un monde réel revisité, donc celui du passé, agrémenté et reproduit par les traces laissées par l'histoire, les affrontements, les combats vont finalement peut-être davantage produire un monde possible fictionnel, celui de l'imaginaire médiéval et le monde possible fictionnel au sens de Françoise Lavocat notamment. Donc on est bien sur cette idée d'un temps ludique sur lequel on va mettre l'accent sur le fun et l'euphorie. Et finalement, les situations de combat sont aussi à comprendre comme des rituels qui permettent de créer des espaces interstitiels qui reproduisent l'imaginaire du guerrier et de la masculinité qui lui est associée. Je vous remercie.
Merci.
Bien, merci Audrey pour cette plongée là dans un monde que finalement nous connaissons peut-être assez peu. Enfin moi j'ai découvert quand même beaucoup d'éléments parce qu'on a peut-être vu souvent ces spectacles, mais sans cette plongée finalement sociologique que vous nous avez proposée. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christophe de Gerfanov.
Moi je connaissais mal le côté médiéval, mais par contre pour avoir beaucoup discuté avec les coréens napoléoniens qui sont présents dans les imaginaires, par exemple, ou avec des gens qui reconstituent aussi des scènes relatives aux guerres mondiales du XXe siècle, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'il y a un vrai côté patriotique dans ce qu'ils font. Ça semble moins net pour les médiévistes.
Oui, je pense que l'histoire vivante, ça va vraiment être différent en fonction des périodes. Il y a des périodes qui vont davantage mettre l'accent sur le côté armé au sens premier du terme, donc la période antique, la période napoléonienne, etc. Et ce ne sont pas les mêmes motivations pour la reconstitution médiévale. Il n'y a pas ce côté, armé, on fait partie d'un seul corps, etc. C'est vraiment plus le côté fun, jeu, temps rituel, ponctuel. Donc la reconstitution napoléonienne, la reconstitution romaine, l'objectif premier, c'est recréer une personne ayant été dans l'armée de César ou dans l'armée de Napoléon, etc.
Avec une volonté d'historicité, justement.
Oui, il y a beaucoup moins de vie civile aussi dans la reconstitution romaine et napoléonienne, et il y a encore moins de femmes sur ces périodes-là Alors ça dépend des troupes, c'est pour ça il n'est pas question de généraliser, ça dépend des troupes, des assos, des modes de fonctionnement, mais souvent oui, ça arrive qu'on dise à des femmes, mais non, mais toi tu peux pas venir te battre avec nous parce que historiquement parlant il n'y en avait pas, donc tu n'as pas ta place là, mais bon, ça dépend des troupes, mais oui bien sûr c'est des discours qui existent.
Oui, moi c'est une remarque. Donc, moi j'ai cité par un entraînement de BO plusieurs, même à Paris, donc à Saldar. Il y a une combattante qui est championne d'Europe, d'ailleurs, c'était assez... Alors là, pour le coup, la salle d'armes la mettait en avant, pour le coup, parce que c'était un peu leur local, quoi. Mais c'était amusant, dans cet entraînement, plusieurs fois, tout le moment, ils étaient tous en train de se mettre dessus par deux, voilà, donc c'était hyper violent. Et tout à coup, il y a un entraîneur qui trouvait qu'ils n'allaient pas assez fort, il commence à crier « Sortez, vous les doigts du cul !» C'est évidemment une référence à Kaamelott. Et c'est assez marrant, plusieurs fois dans les combats, il y a des... Si, je te jure, c'est une référence, etc. Oui, c'est ça, mais il l'a dit de la manière, vraiment, il l'a dit vraiment avec la manière de voir Arthur. Voilà, c'était ça, on assistant bien sur le dernier mot, je ne répéterai pas. Et donc, il y a eu plusieurs comme ça références à des trucs. Il y a eu un moment, il y a eu une référence à Guy dans le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est assez marrant, justement, des espèces un sport de combat, en fait, médiévalisé, parce qu'évidemment, même eux, ils disent que ce n'est pas leur constitution, ils sont complètement au courant, en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est assez amusant, cette espèce d'irruption de l'imaginaire, en fait, dans des espèces de sports de combat médiévalisés. Et dernière chose, là, justement, vu que j'ai des sociologues sous la main, c'est pas tous les jours. Moi, ce qui est assez amusant quand je vois ce type de pratique, moi, je pense ça comme un rite d'inversion par rapport à la modernité. En fait, vraiment, on se retrouve dans un espace, en fait, et un temps qui est à l'opposé, en fait, de ce qu'on est. Donc, par exemple, aujourd'hui, on insiste de plus en plus pour que c'est très bien que les hommes se montrent, voilà, et qu'ils parlent contre le sexisme et tout. Et donc, là, on va se retrouver dans un espace où, limite, le sexisme, hein, tu parlais de parler comme des camionneurs, voilà, c'est un peu, le sexisme, il est normalisé, quelque part. Ça, je trouve que c'est assez frappant. J'aimerais juste avoir ton point de vue par rapport à ça, est-ce que tu dis ou pas, voilà, en disant ce concept-là.
Alors, quand même, pour repréciser, là, c'était vraiment une com sur les combats, c'est pas comme ça partout en reconstitution, hein, c'est-à-dire que les femmes ont quand même leur place sur l'artisanat, sur tout un tas de choses, là, c'est vraiment très... voilà, très spécifique à cette pratique-là. Maintenant, alors sur le temps, je pense que les recréations du passé, notamment l'histoire vivante, c'est une volonté de retrouver un autre temps. Mais comme je l'ai dit, c'est pas une nostalgie, c'est pas c'était mieux avant, c'est plutôt on va prendre le temps, on va vivre autrement, on va vivre avec le soleil, on va manger quand c'est cuit et pas forcément à midi. Voilà, c'est vraiment cette idée d'avoir un rapport au temps peut-être plus posé, plus long. Que la nostalgie. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de nostalgie sur c'était mieux avant. Ils sont très bien conscients que voilà, on fait un week-end de reconstitution, on sait bien que c'est pas du tout, enfin ce ne sont pas du tout les conditions réelles de l'époque. Maintenant sur le sexisme, je ne suis pas sûre que ce soit spécifique à la reconstitution historique, et je pense qu'on va retrouver ça sur la plupart des pratiques sportives masculines, notamment dans lesquelles on va avoir quelques femmes, etc. Je pense que c'est plus global. Et la reconstitution, comme loisir, ne traduit qu'un état sociétal, en fait, actuel. Voilà. C'est... Laurent ?
Alors, ouais, pour rebondir là-dessus, il me semble qu'il y avait un sport de tir. Alors, je ne sais plus si c'était fusil, pistolet, ou c'était mixte. Les compétitions étaient mixtes pendant longtemps. À partir du moment où les femmes commençaient à gagner, on a fait des compétitions séparées. Donc, là aussi, ça veut dire beaucoup. Effectivement, c'est pas limité à ça, bien entendu. Et bon, du coup, moi, j'ai une question qui est tout autre, hein, quand même. Pour revenir au côté fantasy, tu disais que le combat en reconstitue, c'est pas comme les animaux, on n'essaye pas de reproduire les gestes. Mais alors, du coup, est-ce que dans les combats, il y a des gens qui vont essayer de faire des trucs comme ils ont vu à la télé, ou qui vont se prendre pour Aragorn ou Boromir, qui vont faire des grands mouvements d'épée et tout ça, ou c'est pas dans la mise en scène, qu'est-ce qu'on peut voir?
Alors, c'est un peu entre les deux. Il y a des codes. Alors, évidemment, on ne reproduit pas des gestes, parce que des gestes, à l'époque, avec une épée, il fallait fermer les stocks. Les stocks, ça blesse, ça fait mal. Donc, les estocs sont interdits en combat. Donc, déjà, on enlève 90% de ce qu'on peut trouver dans les sources médiévales. Maintenant, il n'y a pas tellement non plus de grands moulinets, parce que c'est pareil, c'est pour des problèmes de sécurité, c'est dangereux. Donc c'est assez ramassé, en fait, hein, comme combat. Il y a pas... Après, ça dépend si on est sur de la reconstitution de bataille, sur une mêlée, etc. Mais il y a des codes, il n'y a pas de touche à la tête non plus, souvent, très souvent. Donc voilà, on enlève, il n'y a plus rien d'historique dans ce qui reste. Donc après, ils s'entraînent, il y a des entraînements, donc avec bouclier, sans bouclier, mais c'est sur un imaginaire lié à de la sécurité. C'est-à-dire, on va taper, par exemple, on va taper le bouclier, mais ça n'a aucun sens. Si on veut tuer celui d'en face, on ne tape pas son bouclier. Enfin, voilà. Donc il y a des codes qui sont mis en place, des normes, des gestes normés finalement, mais
sécurisés.
Voilà, qui sont liés surtout à la sécurité. Et comme ça se reproduit, en fait, ils apprennent les gestes que les autres font, etc.
Est-ce que par exemple, on peut dire, là, à quelqu'un qui serait
qui n'avait pas un physique nordique, à qui on pourrait dire, bah non, tu ne peux pas jouer la vikine parce que tu n'as pas le physique. Tu vois, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se sont aussi affichés que ce qu'on peut avoir dans justement les remarques envers les femmes.
Alors encore une fois, les remarques envers les femmes, c'est avec l'exemple des combats. Je voudrais pas qu'on généralise sur toute la reconstitution, parce que voilà, c'est ce qu'on trouve après ailleurs dans les loisirs, n'importe quel loisir. Maintenant, sur le profil ethnique des participants, il y a très peu d'autres profils ethniques caucasiens, hein, clairement. Maintenant, quand il y en a, ça pose pas de problème. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de discours tenu là-dessus sur que ça pourrait poser problème. C'est souvent d'ailleurs les personnes d'origine ethnique, par exemple africaine, vont chercher à reconstituer un combattant pour le coup, parce que celui auquel je pense était un combattant d'ailleurs, mais justement du lieu en question, du territoire en question. Donc c'est aussi une manière de retrouver un patrimoine qui n'est pas seulement européen. Je vais vous la remettre.
Je rebondis juste une seconde sur la question de l'inversion. Je comprends l'argument, je le combats, essentiellement parce que ça nourrit derrière des théories de la compensation. C'est-à-dire, en gros, tu joues un héros dans la fiction parce que tu es un loser dans la vraie vie. Et cet aspect-là, c'est quelque chose qui a largement pollué le débat sur la fiction, sur le loisir. Je préfère parler de temps d'expérimentation, de diversification. Plutôt que d'une idée d'un, ça ne veut pas dire que je te combats toi, bien entendu, hein, mais c'est le terme d'inversion me paraît séduisant sur le coup et en fait extrêmement piégé parce que nourrissant cette idée que la fiction aurait une fonction qui serait donc de compenser tout ce que le quotidien ne nous offre pas.
Allez-y.
Merci.
Voilà. Alors peut-être pour conclure, et bon là c'est la spécialiste de SF qui va parler. Alors moi ça m'a beaucoup intéressée parce que dans les festivals actuels de science-fiction, on a vu l'apparition évidemment d'écoles de sabres laser, de combats de sabres laser. Alors moi j'aurais voulu avoir votre avis, Audrey, sur cette pratique qui est assez nouvelle. Et alors surtout ce qui est très intéressant, c'est que quand vous jetez un petit coup d'œil à ces combats de sabre laser, en fait, les maîtres du sabre laser sont souvent des femmes. Sauf que là, nous ne sommes plus évidemment dans une histoire reconstituée, mais dans une fiction, en fait, reconstituée, vous voyez. Donc on est, et en plus, on est dans le futur, donc voilà.
Je ne sais pas trop ce que je peux dire dessus. C'est, oui, j'avais vu ça, j'avais pensé faire un terrain, effectivement, là-dessus, puisque ça rentre dans des objets. Maintenant, la grosse différence, il me semble, c'est que les écoles de sabre laser sont des écoles, c'est pas porté par une communauté. Ce sont des entreprises qui ont but à faire du commerce et de l'argent. Alors, c'est pas un problème en soi, mais sauf que du coup, c'est pas porté par une communauté. Donc, les logiques à l'intérieur sont pas les mêmes, il me semble. Mais comme j'ai pas travaillé dessus, je me permettrai pas d'aller plus loin que ça. Mais en tout cas, en termes de logique d'interaction entre les individus, ce sont des gens qui viennent consommer une activité sportive recréé effectivement d'après une fiction, mais on n'est pas du tout sur le côté communautaire.
Bien sûr. Donc une future communication certainement, peut-être dans un colloque de science-fiction. Bien, je vous remercie de votre attention et nous allons donc maintenant passer, au repas et au déjeuner. Merci beaucoup et merci à nos trois communicants pour cette belle matinée. Merci.